En matière d'immigration, tout le monde s'accordait à dire que le système était en panne. La procédure légale pouvait prendre 10 ans, parfois plus, et son issue dépendait souvent du pays d'origine et des moyens financiers du demandeur. Pendant ce temps, le fossé économique qui nous séparait de nos voisins du Sud poussait chaque année des centaines de milliers de personnes à traverser illégalement la frontière américano-mexicaine, longue de 3110 kilomètres, en quête de travail et d'une vie meilleure. Le Congrès avait dépensé des milliards de dollars pour la renforcer au moyen de barrières, de caméras et de drones, et avait considérablement développé et militarisé la police aux frontières. Mais loin d'arrêter l'afflux de migrants, ces mesures avaient créé un marché lucratif pour les passeurs, les coyotes, qui transportaient leur cargaison humaine dans des conditions barbares, parfois mortelles. Et alors que la presse et les politiciens se concentraient sur ces populations pauvres en provenance du Mexique et d'Amérique centrale, l'immigration était aussi composée à 40% de personnes qui arrivaient par les aéroports et autres voies légales et restaient après l'expiration de leur visa. En 2010, on estimait à 11 millions le nombre de personnes sans papiers qui vivaient aux États-Unis, souvent tout à fait intégrées au tissu social. Beaucoup étaient là depuis longtemps et avaient des enfants qui avaient obtenu la citoyenneté américaine par le droit du sol ou qui étaient arrivés si jeunes qu'ils étaient en tout point américains, si ce n'est qu'il leur manquait un bout de papier. Des secteurs entiers de l'économie reposaient sur leur travail, car les sans-papiers acceptaient plus facilement d'accomplir des tâches dures ou ingrates pour un salaire dérisoire. Récolter les fruits et les légumes que vendaient nos épiceries, faire le ménage dans les bureaux ou la plonge dans les restaurants, et s'occuper des personnes âgées. Mais certains consommateurs américains, tout en profitant de cette main-d'œuvre invisible, craignaient aussi qu'elle ne vole le travail des citoyens, plombe les programmes d'aide et bouleverse la composition ethnique et culturelle du pays, et réclamaient donc une répression plus sévère de l'immigration illégale. Ce sentiment était le plus fort dans les circonscriptions républicaines, attisé par une presse ultra-conservatrice de plus en plus nativiste. Mais les positions de chaque parti n'étaient pas aussi simples. La base syndicaliste, historiquement démocrate, voyait la présence de travailleurs sans papiers sur les chantiers comme une menace pour l'emploi, tandis que les grandes entreprises, plutôt républicaines, qui désiraient conserver leur approvisionnement en main-d'œuvre bon marché, ou dans le cas de la Silicon Valley, en développeurs et ingénieurs informatiques d'origine étrangère, se révélaient souvent pro-immigration. En 2007, John McCain, s'écartant de la ligne du parti avec son acolyte Lindsey Graham, avait même coopéré avec Ted Kennedy pour élaborer une réforme globale qui accorderait la citoyenneté à des millions d'immigrés sans papier, tout en augmentant la sécurité aux frontières afin d'interrompre le flux. Malgré le franc soutien du président Bush, ce texte n'avait pas passé le Sénat. Il avait néanmoins recueilli 12 votes républicains, ce qui indiquait une réelle possibilité d'accord transpartisan. Je m'étais engagé pendant ma campagne à relancer ce projet de loi, et dans cette optique, j'avais nommé l'ancienne gouverneure de l'Arizona, Janet Napolitano, à la tête de la Sécurité intérieure, le département chapeautant le service de l'immigration et des douanes, ICE, ainsi que le bureau des douanes et de la protection des frontières, parce qu'elle connaissait les questions frontalières et était réputée pour son approche à la fois ferme et humaine de l'immigration. Jusque-là, tous mes espoirs de faire passer un texte de loi avaient été douchés. En pleine crise économique, alors que les Américains perdaient leurs emplois, peu de parlementaires étaient prêts à se colter avec un dossier aussi brûlant que l'immigration. Kennedy n'était plus là. McCain, critiqué sur son flanc droit pour la relative modération de ses positions migratoires, paraissait peu désireux de reprendre les armes. Pire encore, nous continuions sous mon mandat à expulser de plus en plus de travailleurs sans papier. Ce n'était pas le résultat d'une décision de ma part, mais d'une directive parlementaire de 2008 qui avait augmenté le budget de l'ICE et renforcé sa collaboration avec les forces de police locales afin d'augmenter les expulsions d'immigrés sans papier ayant un casier judiciaire. Mon équipe et moi avons fait le choix stratégique de ne pas tenter immédiatement de revenir sur cette politique dont nous avions hérité, en grande partie parce que nous ne voulions pas donner du grain à moudre à nos détracteurs qui prétendaient que les démocrates refusaient de faire appliquer les lois sur l'immigration. Un discours susceptible de torpiller nos chances de faire voter une réforme. Mais en 2010, les militants pour les droits des immigrés et des hispaniques critiquaient notre immobilisme, de la même manière que les activistes LGBTQ nous étaient tombés dessus au sujet de DADT. Et quand bien même j'encourageais le Congrès à voter une réforme de l'immigration, je voyais mal comment j'allais pouvoir proposer un nouveau texte avant la mi-mandat. C'est là qu'intervient le Dream Act. L'idée d'améliorer la situation des jeunes sans-papiers arrivés aux États-Unis quand ils étaient enfants flottait dans l'air depuis plusieurs années, et au moins 10 versions du Dream Act avaient été retoquées par le Congrès depuis 2001. Les partisans du texte le présentaient souvent comme une étape imparfaite, mais essentielle, vers une réforme plus étendue. Il devait accorder aux Dreamers, le surnom donné à ces jeunes gens, un droit de séjour temporaire et les mettre sur la voie de la citoyenneté, à condition qu'ils remplissent certains critères. Le dernier projet en date exigeait qu'ils soient entrés sur le territoire avant l'âge de 16 ans, qu'ils y aient vécu 5 années consécutives, qu'ils aient leur diplôme d'études secondaires, obtenu dans un lycée ou en candidat libre, aient fait 2 années d'études supérieures ou se soient engagés dans l'armée, et bien sûr, qu'ils aient un casier judiciaire vierge. Les États pouvaient décider de les rendre éligibles à des réductions de frais de scolarité, sans quoi nombre d'entre eux n'auraient jamais eu les moyens d'aller à l'université. Les Dreamers avaient fréquenté les écoles américaines, pratiqué des sports américains, regardé la télévision américaine et traîné dans des centres commerciaux américains. Dans certains cas, leurs parents ne leur avaient jamais dit qu'ils n'étaient pas des citoyens américains. Ils l'avaient appris lorsqu'ils avaient tenté de passer leur permis de conduire ou demander une bourse d'études. J'avais eu l'occasion de rencontrer beaucoup de ces jeunes, avant et après mon entrée à la Maison Blanche. Intelligents et posés, ils avaient du caractère et tout autant de potentiel que mes filles. Je trouvais même qu'ils avaient une vision moins cynique des États-Unis qu'une grande partie de leurs contemporains de souche, précisément parce qu'ils avaient appris à ne pas considérer la vie dans ce pays comme une chose acquise. Permettre à ces jeunes gens de rester aux États-Unis, le seul pays que la plupart d'entre eux avaient jamais connu, était un tel impératif moral que Kennedy et McCain avaient intégré les dispositions du Dream Act à leur loi de 2007 sur l'immigration. Et en 2010, faute de réécriture plus globale de la législation migratoire annoncée dans un avenir proche, Harry Reid, qui n'aurait pas obtenu sa réélection à la mi-mandat sans un fort soutien de la communauté hispanique, avait promis de soumettre le Dream Act au vote avant la fin de l'année. Hélas, Harry avait fait cette annonce à la dernière minute et sans avertir personne, ni nous, ni ses collègues sénateurs, ni les groupes qui travaillaient sur la réforme. Agacé qu'il ait fait cavalier seul, il aurait quand même pu me passer un coup de fil, Nancy Pelosi avait toutefois joué le jeu et poussé le texte à la Chambre. Mais au Sénat, McCain et Graham avaient dénoncé l'opportunisme de Harry et déclaré qu'ils ne voteraient pas le Dream Act s'il ne s'accompagnait pas d'un renforcement des frontières. Les 5 sénateurs républicains qui avaient soutenu la proposition McCain-Kennedy en 2007 et étaient toujours en poste n'ont pas exprimé leurs intentions de vote, mais leur soutien paraissait précaire. Et puisque nous ne pouvions pas espérer que tous les démocrates se rangent derrière le texte, surtout après le naufrage de la mi-mandat, tout le monde à la Maison-Blanche a commencé à se démener pour trouver les 60 voix qui nous éviteraient l'obstruction dans les quelques jours restants avant que le Sénat ne baisse le rideau pour les fêtes. J'avais mis Cecilia Muñoz, la directrice des affaires intergouvernementales, en pointe sur ce dossier. À l'époque où j'étais sénateur, elle était la vice-présidente aux questions politiques et législatives du National Council of La Raza, la plus grande association hispanique du pays, et depuis cette époque, elle me conseillait sur l'immigration. Originaire du Michigan et fille d'immigrés boliviens, Cecilia était petite, mesurée, simple et, comme je le lui disais en plaisantant, tout simplement adorable. Elle nous rappelait nos institutrices préférées, mais elle était également coriace et obstinée, et fervente supportrice de l'équipe de football du Michigan. En quelques semaines, son staff et elle ont lancé une offensive médiatique totale, trouvant des angles narratifs, rassemblant des chiffres et recrutant presque tous les membres du gouvernement et des agences, jusqu'à la Défense, pour organiser un événement. Surtout, Cecilia a constitué un groupe de Dreamers, prêts à dévoiler leur statut de sans-papiers pour raconter leur histoire aux sénateurs indécis et à la presse. À plusieurs reprises, elle et moi avons parlé du courage de ces jeunes, conscients que, à leur âge, nous n'aurions jamais pu endurer une pression pareille. « J'ai vraiment envie de gagner pour eux », m'a dit Cecilia. Et pourtant, malgré toutes les heures passées en réunion et au téléphone, nos chances d'obtenir les 60 voix s'amenuisaient un peu plus chaque jour. L'un de nos plus grands espoirs était Claire McCaskill, la sénatrice démocrate du Missouri. Claire avait été parmi mes premiers soutiens et mes meilleurs amis au Sénat, et c'était une politicienne habile, au verbe tranchant et au grand cœur, sans une once d'hypocrisie ou de prétention. Mais elle venait aussi d'un État conservateur à tradition républicaine et constituait une cible de choix pour le GOP dans sa campagne de reconquête du Sénat. « Vous savez que je veux aider ces jeunes, Monsieur le Président », m'a dit Claire au téléphone. « Mais ici, tout ce qui touche à l'immigration est extrêmement impopulaire. Si je vote ce texte, j'ai de grandes chances de perdre mon siège. » Je savais qu'elle n'avait pas tort. Et si elle perdait, c'était un risque supplémentaire de perdre le Sénat et donc de ne jamais pouvoir faire passer le Dream Act, ni la réforme de l'immigration, ni rien du tout. Comment mettre dans la balance ce risque et la situation des jeunes que j'avais rencontrés? L'incertitude et la peur avec lesquelles ils étaient obligés de vivre, la possibilité quotidienne d'être raflés par l'ICE, jetés en cellule et envoyés dans un pays qui leur était aussi étranger qu'à moi. Avant de raccrocher, Claire et moi avons conclu un pacte pour tenter de résoudre la quadrature du cercle. S'il nous manque uniquement votre voix pour arriver à 60, ai-je dit, alors ces jeunes vont avoir besoin de vous, Claire. Mais si de toute façon nous sommes trop courts, alors ça ne sert à rien de vous tirer une balle dans le pied. Le Sénat s'est prononcé sur le Dream Act par un samedi nuageux de décembre, une semaine avant Noël, le même jour que celui de l'abrogation de DADT. Sur la petite télé du bureau ovale, en compagnie de Pete Souza, Reggie et Katie, j'ai regardé les sénateurs voter l'un après l'autre et compter les votes favorables. 40, 50, 52, 55. Il y a eu un blanc. Toute la chambre est restée en suspens, le temps pour les sénateurs qui le souhaitaient de modifier leur vote, puis le verdict est tombé. Il nous manquait 5 voix. Je suis monté par l'escalier à l'étage de l'aile ouest et me suis dirigé vers le bureau de Cecilia, où sa jeune équipe et elle venaient également de regarder le vote. Ils étaient presque tous en larmes, et j'ai pris chacun et chacune dans mes bras. Je leur ai rappelé que, grâce à leurs efforts, nous avions été plus près que jamais de faire adopter le Dream Act, et que notre rôle était de continuer à essayer tant que nous le pourrions, jusqu'à ce que nous atteignions notre but. Ils ont acquiescé en silence et je suis redescendu. Katie m'avait laissé une sortie papier du résultat du vote. En parcourant la feuille, je me suis aperçu que Claire McCaskill avait voté oui. J'ai demandé à Katie de me mettre en communication avec elle. « Je croyais que vous deviez voter non, sauf si c'était serré », lui ai-je dit quand elle a décroché. « Moi aussi, c'est ce que je croyais, monsieur le Président. Mais au moment de voter, j'ai pensé à tous ces jeunes qui étaient passés dans mon bureau. » Sa voix s'est fêlée sous le poids de l'émotion. Je n'ai pas pu leur faire ça. Je ne voulais pas qu'ils pensent que je ne m'intéressais pas à eux. Elle s'est reprise et a poursuivi. Mais avec tout ça, je crois que vous allez devoir m'aider à lever pas mal d'argent si je veux pouvoir rivaliser avec les spots des Républicains qui m'accusent d'être trop laxiste sur l'immigration. J'ai promis à Claire de l'aider. Elle n'assisterait à aucune cérémonie de ratification et ne serait applaudie par aucune assemblée. Mais j'étais convaincu que la discrète démonstration de moralité dont elle venait de faire preuve, au même titre que celle de Mike Mullen, était un pas de plus dans l'amélioration de notre pays. L'échec du Dream Act était dur à avaler. Heureusement, toute la Maison-Blanche pouvait se consoler en se disant que nous avions eu la fin de session parlementaire la plus productive de l'histoire récente. En 6 semaines, la Chambre et le Sénat avaient totalisé 48 jours d'activité et promulgué 99 textes, plus du quart des lois adoptées par le 111e Congrès en 2 ans. Et surtout, l'opinion ne semblait pas insensible à cette recrudescence d'activité parlementaire. Axe nous a rapporté une hausse de la confiance des ménages et de ma cote de popularité, non pas à cause d'un changement de message ou de politique, mais parce que Washington avait abattu un paquet de travail. L'espace d'un mois et demi, tout le monde avait eu le sentiment que la démocratie s'était remise à fonctionner, avec des concessions entre les partis, des transactions avec les groupes d'intérêt, et tous les bons et les mauvais côtés du compromis. Je me demandais toutefois ce que nous aurions pu faire de plus et jusqu'où nous aurions pu pousser la relance économique si cette atmosphère avait prévalu dès le début de mon mandat.